C'était une belle journée de juillet 1962. J'arrivais de Strasbourg où je venais de passer 4 mois à faire mes classes dans une caserne d'infanterie. La gare de l'Est était pour moi la plus merveilleuse du monde. Mon paquetage sur le dos, je pris le métro qui me parut super moderne. Tout le monde était souriant, de bonne humeur, à moins que ce ne fût moi, l'heureux provincial, ravi de revenir dans la capitale. Raymond Depardon est ce soir notre invité à l'occasion de son exposition et du livre qui l'accompagne, Depardon, photographe militaire. Et comme chaque soir, nous allons commencer en musique avec Bob, le grand Bob.
Well, it ain't no use to sit and wonder why, baby, even you don't know by now. And it ain't no use to sit and wonder why, baby, it'll never do somehow. When your rooster crows at the break of dawn, look out your window and I'll be gone. You're the reason I'm a-traveling on, but don't think twice, it's all right. And it ain't no use in a-turning on your light, babe, the light I never knowed. And it ain't no use in turning on your light, baby, I'm on the dark side of the road. But I wish there was something you would do or say to try and make me change my mind and stay. But we never did too much talking anyway. But don't think twice, it's all right. Use in calling out my name, gal, like you never done before. And it ain't no use in calling out my name, gal, I can't hear you anymore. I'm a-thinking and a-wondering, walking down the road. I once loved a woman, a child, I'm told. I gave her my heart, but she wanted my soul. Don't think twice, it's all right. So long, honey, baby, where I'm bound, I can't tell. Goodbye is too good a word, baby, so I just say fairly well. I ain't saying you treated me unkind. You could have done better, but I don't mind. You just kind of wasted my precious time. But don't think twice, it's all right.
Pourquoi avez-vous voulu échanger votre petit veau que votre père vous avait offert, Raymond Depardon, pour vous acheter un scooter?
C'est pour me déplacer plus vite dans Paris, pour faire ce que j'appelais ces petits reportages que personne ne voulait faire. Donc parce que j'étais un jeune pigiste, j'avais pas fait d'études, j'arrivais de Villefranche-sur-Saône à 16 ans. Donc effectivement, mes parents m'avaient offert un petit veau et ce petit veau était à vendre. Et je me suis dit c'était une bonne idée de le vendre et puis je vais m'acheter un scooter. D'ailleurs, je me suis pas acheté n'importe quel scooter, je me suis acheté un scooter italien Rumi. Et comme ça, je pouvais faire 2-3 petits reportages au relais flex d'ailleurs à cette époque et j'avais peut-être une chance de percer et c'était un peu mon idée voilà mais j'ai toujours fait ça les vases communicants c'est-à-dire avec une photo que je vends je fais autre chose voilà ça a été une méthode peut-être une méthode qui me vient de mes parents d'ailleurs on achète avec la récolte de blé on achète un tracteur voilà et je me suis aperçu qu'il fallait aller vite un peu pour battre la concurrence un peu souvent. À cette époque-là, on pouvait par exemple rentrer dans la cour de l'Élysée, on était libre, je faisais des petites choses dans les salons agricoles, les prix littéraires, les premières de cinéma. Donc, mais ça m'a familiarisé avec cet appareil qui était le Rolleiflex parce que on faisait un film ou deux maximum. Et donc, ça m'a appris à travailler, à me placer. Peut-être que la situation est un peu différente de maintenant. Les gens posaient beaucoup. Je vois parce que quand je suis revenu justement de mon service militaire en 63-64, j'ai vu c'était fini. Donc là, les gens par exemple, s'il y avait une première sur les Champs-Élysées, ils descendaient de voiture, ils posaient pour les photographes. C'était peut-être une survivance de la plaque du speed graphique. Ça, ils faisaient une photo et donc on faisait une photo et puis tout le monde était content.
Pourquoi vous êtes-vous rendu avec votre beau scooter un beau matin dans une clinique de Meudon?
Ah, ben c'est vrai que mon instinct un peu, je dirais, comme un peu fils de paysan, je me suis dit, il y avait deux personnes quand même qui dominaient tout à cette époque-là, on est en 60, hein, soit 59-60, c'est le général de Gaulle et Brigitte Bardot. Et c'était difficile à photographier, voilà. Donc le général de Gaulle, bon, c'était des photographes très expérimentés qui couvraient les événements, l'Algérie, etc. Et moi, je me disais Brigitte Bardot. Et j'ai lu, effectivement, j'avais quand même appris plusieurs choses. C'est-à-dire qu'il fallait aller souvent au drugstore des Champs-Élysées pour regarder la presse étrangère. C'est là que tu la voyais. Se nourrir, manger des photos des grands journaux étrangers qui étaient peut-être plus... mais aussi en France aussi, bien sûr. Et puis, donc j'ai tombé sur un article, peut-être est-ce que je commençais à lire Le Monde ou un autre journal, je sais pas. J'ai vu que Jacques Charrier était hospitalisé dans une clinique de Meudon. Et c'était un jour férié, comme il y en a eu tant là, ces temps-ci, là, comme ça. Et j'ai été avec mon scooter et j'ai attendu, et à un moment, j'étais tout seul. Et à un moment donné, Brigitte est arrivée avec une Floride décapotable et son fameux foulard à carreaux. Hein, j'ai fait 4 photos, quoi. Elle a marché, je suis un peu flou d'ailleurs. Et puis je l'ai de dos. Et puis, donc voilà, j'ai foncé à l'agence Dalmas. D'ailleurs, Dalmas était foudrage que ça soit... Moi, il est obligé de me donner 50% des ventes. Et j'étais pas encore staff, j'étais un jeune pigiste. Et donc, la photo a été publiée dans François. Voilà. Et ça m'a valu d'être repéré. Voilà. J'étais plus anonyme. J'étais celui qui avait fait Brigitte Bardot. Mais elle ne m'avait pas parlé. Hein, pourtant, je regrette un peu qu'elle ne m'ait pas dit bonjour. Mais elle n'était pas surprise de me voir, d'ailleurs.
Donc, ce n'était pas une photo volée.
Oh, si. Mais on faisait tout ça. On disait... Il y a Liz Taylor... au Lancaster, rue de Berry, où je dis ça parce que c'était son hôtel préféré, ou la Calas, on était sur le trottoir, et on faisait entre le trottoir, entre la porte de l'hôtel et la Rolls. On faisait une photo. Et puis, voilà.
Sans jamais demander, sans jamais parler.
Non, sans jamais parler. C'était un peu. J'avais l'impression que c'était plutôt un peu des us habituels. Là, après, quand ça commençait à devenir difficile, c'est là que mon scooter gênait, c'était savoir où la Calas et Onassis allaient manger. Bon, ils allaient souvent manger chez Maxime. Bon, donc, on faisait ce qu'on appelle, dans le langage, une courette, un peu comme ça. On suivait, on grillait un peu les feux rouges. Et puis, mais la Rolls n'allait pas très vite. Et là, il redescendait, il rentrait chez Maxime et on les réattendait comme ça. C'était assez classique, hein. Ou alors, c'était des personnalités très, quand même, d'un certain type. C'était pas des faits divers, c'était pas des gens. Enfin, c'était des personnalités, quoi. Ils s'attendaient à voir les photographes.
Je vous propose d'écouter quelqu'un qui a beaucoup compté dans votre itinéraire, Raymond Depardon. C'est Jean Rouche. Il faut rappeler que Jean Rouche était à la fois un grand anthropologue et un grand cinéaste. On a dit de lui qu'il avait inventé le cinéma vérité. Je crois qu'il préférait le terme de cinéma direct à ce mot de cinéma vérité. Je vous propose de l'écouter. C'est une archive INA du 18 janvier 1976.
Il y a toute une série d'intermédiaires et que ces intermédiaires sont des intermédiaires mensongers. Nous rétrécissons le temps, nous l'allongeons, nous choisissons un angle de prise de vue, nous déformons les personnages, nous accélérons un mouvement et nous suivons ce mouvement au détriment d'un autre mouvement. Donc il y a là un travail de mensonge. Mais, si vous voulez, nous revendiquions quand même ce terme, en ce sens que pour moi, ce mensonge était plus réel que la vérité. C'est-à-dire qu'il y a un certain nombre de phénomènes et de faits humains qui nous entourent, de témoignages, qui ne peuvent être que des témoignages mensongers, qui sont ce que disent des gens dans un certain état qui ne diraient jamais autrement. Qui sont le fait que, par exemple, ce que je dis devant ce micro, je ne le dirais pas si nous étions en face d'un pot de bière, simplement parce qu'il y a un micro. Il y a donc là un phénomène très étrange, et ce phénomène très étrange est une sorte de catalyseur qui permet de révéler sans doute une partie entièrement fictive de chacun d'entre nous, mais qui pour moi est la facette la plus réelle de l'individu.
Alors beaucoup de choses dans ce court entretien avec Jean Rouche. Deux questions pour vous, Raymond Depardon. D'une part, dans ce qu'il dit, puisque vous êtes photographe et cinéaste et photographe et écrivain, etc., c'est le rapport à la vérité. Est-ce que effectivement, photographier et filmer, c'est pour vous tenter de restituer au plus près la vérité? Et d'autre part, j'ai l'impression que vous vous revendiquez de Jean Rouche à tel point que vous êtes peut-être un fils de Jean Rouche.
Ça serait un grand honneur, mais c'est vrai que moi j'ai connu très tard Jean Rouche, on m'en avait entendu parler bien sûr, je connaissais son... Mais sans avoir vu tous ses films bien sûr. C'est au moment quand j'ai fait le film sur Giscard d'Estaing, qu'il était bloqué, que nous nous sommes rencontrés.
Et vous voulez dire interdit, hein, oui, interdit par Giscard. Voilà.
Et là, à ce moment-là, j'ai rencontré quelqu'un de formidable. Il en parlait tellement bien. Et c'est vrai que... On avait ce point en commun d'être quand même des gens qui allions souvent en Afrique. Et il avait, je crois, moi j'avais une grande admiration, même si j'avais pas vu tous ses films, bien sûr, mais j'avais pas été confronté à la même Afrique que lui. Mais bon, voilà, je sais qu'il avait une démarche très claire. Il y avait ces cours formidables du samedi matin où il y avait des démarches. On venait, là, on parlait. Et donc, Jean, effectivement, a su comment on filme à sa manière, bien sûr, bien avant moi, les rituels, l'Afrique, les Africains, et en les laissant libres. Parce que c'est vrai que quand il parle tout à l'heure de la vérité, c'est toujours complexe à expliquer aux gens qu'en fait, par exemple, si on prend quiconque a été en Afrique dans sa vie, voit que les Africains ont une élégance naturelle, formidable, incroyable. Particulièrement les femmes, mais tout le monde. Et c'est vrai que si... Souvent, dans les années 50, parce que moi, ou 60 plutôt, je fais partie des photographes qui ont fait partie de cette décolonisation de l'Afrique. Donc, j'ai été souvent très jeune. Et c'est vrai que les gens, ils disaient, il faut me demander la permission de faire une photo. Bon, bien sûr, j'étais ravi. Mais les gens, je voyais que quand ils posaient, la photo était beaucoup moins belle que quand je la saisissais dans le mouvement. Donc, en fait, pour rendre service à l'Afrique, au fond, que nous aimons bien, Jean et moi et d'autres, beaucoup de gens, en fait, il faut un tout petit peu saisir les photos, c'est d'ailleurs prendre sans autorisation. Alors, c'est complexe parce que, en fait, on trahit un petit peu les gens, mais ça, le résultat est bien meilleur. Donc, c'est pareil pour le cinéma vérité. là, on est bien content de trouver les films de Jean Rouch, parce que on voit des gens, des Africains, voilà, et qui parlent comme ils sont, avec l'humour qu'on leur connaît, cette façon de prendre le français, de récupérer le français, de l'inventer, d'inventer un français. Et moi, je trouve ça magnifique. Au fond, moi, je n'ai fait que de prolonger, même si j'ai fait des films en Afrique aussi, de prolonger cette idée.
En Afrique et sur l'Afrique.
Le langage parlé me paraît être très important et a priori c'est le cinéma direct qui le reconstitue le mieux. Il y a des gens qui ont étudié ça. On s'est aperçu que quand même, moi quelquefois,
Cinéma direct, ça veut dire par exemple que quand Jean Rouch tombait sur une cérémonie rituelle chez les Dogons du Mali, par exemple, oui, qu'il l'a filmé. Si ça durait une nuit, il filmait une nuit.
Oui, et puis il y avait...
Il y a pas de format, il y a pas de construction, il voilà, y a pas de scénario, c'est la vie.
Absolument. Et même si, bien sûr, les gens souffraient, comme nous souffrions tous à cette époque, d'avoir des caméras qui étaient beaucoup plus, le temps de prise de vue était beaucoup plus court que maintenant. C'était pas, donc on était avec des caméras ressorts comme ça, les 27 secondes. Lui, Jean, il avait une belle Well. Moi aussi, j'avais une Bolex et tout. Donc on avait des caméras très courtes et ça faisait que le son était difficile à installer. Mais à partir des années 60, d'ailleurs, un phénomène qui nous est venu un peu des États-Unis, on a pu quand même faire beaucoup de choses et laisser les gens s'exprimer et garder la trace de cette façon de s'exprimer, mais même aussi en France, parce que moi je vois mes premiers films que j'ai fait avec Claudine, les choses ont bougé, les choses changent, et ce langage parlé, il est magnifique, parce que moi, j'aime beaucoup aller au cinéma, mais il faut faire attention au cinéma de fiction, tout passe par l'écrit, il faut faire attention que les chercheurs de Palo Alto, par exemple, ont dit, ce sont des gens qui ont cherché, réfléchi là-dessus, qu'une personne normale répétait 7 fois la même chose dans la vie. Donc on est censé dire 7 fois à une femme qu'on aime, je l'aime, je t'aime. On dit 7 fois. Mais bien sûr que dans
c'est
un film...
C'est pas assez.
Mais c'est pas assez. C'est vrai que dans les films, on ne voit qu'une fois, même pas. Donc c'est vrai que le langage parlé, il est magnifique, les gens l'adorent. Tout le monde, il n'y a pas besoin d'être cinéphile pour aimer ça.
Mais c'est pas une évidence.
Non, mais c'est aussi... Alors au début, effectivement, il y a eu des abus, comme ça, on a tourné des longs plans, séquences un peu ennuyeux, enfin, etc. Mais bon, voilà, maintenant, un film, et on le voit, le succès des documentaires qui sortent en salle ou à la télévision, c'est une merveille.
Et qui sont maintenant sélectionnés dans les plus grands des festivals de cinéma, y compris Cannes, très récemment.
Absolument.
Alors, de tout temps, vous avez toujours mené cette triple vocation, j'allais dire, cette triple passion, c'est-à-dire la photographie, le cinéma, l'écriture. Je ne sais pas s'il y a une bonne distance pour vous et ce que vous entendez par bonne distance, mais ce que je peux vous dire, Raymond Depardon, c'est que vous nous avez appris beaucoup de choses sur la société, à la fois sur le fonctionnement des institutions comme les hôpitaux, comme la police, les commissariats de police, etc. C'est-à-dire que grâce à vous, on a pu comprendre les fonctionnements de notre système démocratique ou les déviations et déviances du système démocratique. Et très vite, vous nous avez fait rentrer, ce qui était impossible pour chacun d'entre nous, dans des lieux où tout regard était impossible. Je veux parler des hôpitaux psychiatriques. Je veux parler de votre film sur San Clemente, sur un hôpital à Venise, un hôpital psychiatrique, et de ce film plus récent qui s'appelle 12 jours. En exergue de ce film 12 jours, sur la maladie mentale et l'hôpital psychiatrique, vous avez placé en exergue Michel Foucault. Eh bien, Michel Foucault, je vous propose de l'écouter à propos des fous au moment de son ouvrage Folie et déraison. C'est une archive INA de 1961.
Je crois que le XVIIe siècle représente précisément un tournant. Avant le XVIIe siècle, le fou a eu une existence entièrement libre. Il était en quelque sorte à la surface de la culture et il y vivait d'une présence extraordinairement visible. Il y avait des fêtes de fous, le fou lui-même avait une place dans la littérature et au fond, jusqu'à un certain point, le Don Quichotte de Cervantes peut s'inscrire dans toute cette grande tradition de la littérature de folie ou de la littérature sur la folie. Il y avait une iconographie de la folie, c'est Jérôme Bosch, c'est Bruegel également. Les villes avaient leurs fous qui étaient entretenus, qui étaient soignés, qui étaient jusqu'à un certain point honorés. Mais justement, je crois que ce qui a commencé à faire changer le statut du fou, c'est à partir du moment où la famille, sous sa forme bourgeoise, a pris dans la société une grande importance. Et c'est au XVIIe siècle, quand les normes économiques de la vie ont changé, à l'époque du mercantilisme, eh bien, le fou, personnage oisif, personnage qui dépensait de l'argent et qui ne rapportait rien, eh bien, le fou est devenu terriblement encombrant. Et la sensibilité sociale à la folie a changé en fonction, me semble-t-il, de ces phénomènes économiques.
Et aujourd'hui, Raymond Depardon ?
Ben, c'est vrai que, par exemple, Saint-Clément, c'est dans la lagune de Venise, il y a trois îles, il y a les lépreux, et il y avait encore une quatrième île, je crois, tous les maladies contagieuses, et une île pour les femmes et une île pour les hommes. Donc c'est vrai que on a commencé à les isoler. Moi, j'ai eu la chance en 70 d'aller au Yémen, et c'est un des rares pays où ils étaient encore en liberté. J'ai fait un plan comme ça et j'avais été surpris. Ils s'étaient nourris par la population. Peut-être qu'il y a encore quelque part dans les sociétés. J'ai travaillé un peu sur la Corse. Et la Corse, il y en a beaucoup, beaucoup en liberté. Ils sont comme ça, dans les petits villages de la Corse. On les laisse un peu aussi, comme en Afrique, parce qu'il y a quelqu'un qui les surveille de loin et ils sont en liberté. Donc voilà, c'est pas du tout une critique, bien au contraire. Je trouve que j'ai l'habitude maintenant parce que effectivement, en ayant fait beaucoup de photos et des films, malheureusement, les traitements des médicaments provoquent des effets secondaires. Et donc les gens, on le voit dans la démarche. Quand il y a quelqu'un qui peut avoir ça, on est confronté, même quelquefois dans le métro, dans les transports publics à Paris, on voit quelqu'un, on le sait d'instinct, et c'est le bon sens, qu'il ne faut pas les agresser, et il faut répondre, mais il faut garder ses distances. Voilà, il ne faut pas rentrer dans une conversation. Et c'est assez difficile, parce que quelquefois, on est confronté. Donc on se retrouve un peu comme un psychiatre, au fond, et moi j'ai vu des psychiatres italiens, notamment dans l'équipe de Basaglia, des gens...
Alors il faut dire et préciser qui était Franco Basaglia, c'était un psychiatre qui était issu du mouvement alternatif et qui souhaitait libérer les hôpitaux psychiatriques, ouvrir les hôpitaux psychiatriques. Au même moment, il y avait Lang et Cooper en Angleterre, il y avait tout ce mouvement de l'antipsychiatrie, qui, hélas, aujourd'hui, est complètement mort.
Bien sûr.
Mais vous, c'est Franco Basaglia qui, justement, vous a demandé d'aller filmer à San Clemente.
Oui, et c'est vrai qu'il était impressionnant. Moi, j'avais un peu, moi-même, un peu, je culpabilisais de faire ces photos. Enfin, un peu comme ça. Et en fait, je sais pas, j'étais poussé
par... Culpabilisé, pourquoi ? Parce que vous aviez l'impression d'être un peu un voyeur.
Oui, parce que forcément. Et puis, à un moment, je sais que, voilà, j'ai été autorisé, j'ai été le voir à Trieste. Et Trieste était encore un grand hôpital psychiatrique. C'est là où il avait toute son équipe. Et à un moment donné, j'ai suivi des gens qui sortaient d'une cantine et qui marchaient un peu bizarrement, comme ça. Et puis, je les ai suivis. Et puis, je me suis retrouvé dans un réparto, comme ils disent, là-bas, un pavillon. Et la porte s'est fermée. Et il y avait vaguement, peut-être même pas un infirmier. Et je me suis retrouvé enfermé avec. Et là, j'ai vu que c'était ce qu'ils appellent en italien des chroniques, c'est-à-dire des gens qui peuvent plus rien faire. Ils sont là depuis tellement longtemps que on peut plus les soigner, on peut plus les, même si on les libérait. Voilà, et c'est vraiment l'hôpital psychiatrique qui les a détruits, quoi. Plus que la maladie, d'ailleurs. Voilà. Et je suis retourné parce que j'étais attiré par ces photos-là. C'était impressionnant, quoi. Et puis un jour, on m'a dit, il y a Franco Basaglia qui veut vous voir. Je me suis dit, instinctivement, mais il va me gronder, quoi, il va m'empêcher. Il m'a invité dans un grand restaurant de Trieste. Il parlait très bien le français. Et puis, au bout d'une demi-heure, je vois, il ne me parle pas de ça. Et je lui dis, mais j'ai tombé sur des répartos qui, il y a effectivement beaucoup de malades chroniques et j'ai fait des photos. Et il m'a dit, mais Raymond, tu as raison. Parce que sinon, il m'a dit, un jour, on ne va pas nous croire. Voilà. Et il faut faire, C'était une époque où on parlait beaucoup de la Shoah, des camps, etc. Donc il y avait avec Auschwitz et Birkenau, et il savait que j'avais été à Birkenau, j'avais fait des photos, et il m'a dit non, il faut que tu fasses ce que tu crois. Et n'importe comment, ces photos-là, tu pourrais pas les faire en France, ni aux États-Unis, tu les fais ici, parce que nous, on peut rien faire, on peut plus les sauver, on va essayer de faire pour que la prochaine génération soit on les met en systématiquement en hôpital, pas mettre les gens en système. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui encore, on enferme beaucoup de gens pour pas grand chose, quoi.
Considérez-vous aujourd'hui, Raymond Depardon, que votre art, que ça soit l'art photographique ou l'art cinématographique, revêt pour vous une dimension d'engagement, pas seulement de témoignage, parce que il y a évidemment la manière dont vous posez votre caméra, mais il y a aussi la manière dont vous scrutez le réel sous toutes ses faces et dans beaucoup de continents. Et vu que ça fait maintenant des décennies que vous témoignez des inégalités, des injustices les plus criantes, il se dégage de votre œuvre une dimension humaniste et une dimension de révolte. Acceptez-vous cela ?
Oui. Sans doute, au fond de moi, elle s'est faite, je ne sais pas comment, parce que j'ai eu une enfance formidable, mes parents étaient gentils, ils appartenaient au siècle dernier presque. Et ça, c'est ce qui est très, très étonnant pour un photographe, quelqu'un de l'image, c'est cette idée d'écouter. Or que je suis, comme beaucoup d'hommes, je n'écoute pas très bien. Et ça s'est concrétisé par cette rencontre que j'ai eue avec Claudine Nougaret, qui est ingénieure du son, qui a, forcément, c'est en écoutant qu'on peut un peu mieux témoigner. Parce que c'est pas tellement l'image. Bien sûr, l'image, elle est importante, mais c'est surtout le son. Et en fait, les gens, il faut pas les déranger, il faut pas les regarder. Il y a plein de petites méthodes qu'on apprend assez vite. Et puis, il faut sans doute aussi, peut-être quelque part, un peu les aimer, les gens, quoi, qu'on filme. Donc c'est vrai que je suis, je veux les aider d'une manière peut-être un petit peu, effectivement, à ces 19e siècle, c'est-à-dire en faisant un peu comme mes pères, les grands photographes qui ont photographié des gens comme ça, Sanders, tout ça, des photos comme ça où c'est pas la photo qu'on peut peut-être plus en dire que par des discours, quoi. Et donc c'est vrai que le cinéma direct est une démonstration parce qu'en fait on s'aperçoit qu'on est on a beaucoup de connaissances dans le langage de parler des gens en français, mais même en étranger, même dans des langues étrangères. Et en fait quelqu'un vous parle, vous faites très vite une photographie de cette personne par cette façon de parler, les mots qu'il utilise, le ton, la intonation, et c'est très riche. Et c'est vrai que l'amour du cinéma que j'ai, moi je comprends très bien, par exemple Bresson, c'est une petite métaphore qui a à voir quand même, Bresson, il faisait 70 plans d'une prise d'un acteur qui ouvrait et fermait une porte. Pourquoi ? Parce que quand on ouvre une porte, ce n'est pas vrai qu'on pense à ouvrir une porte. On l'ouvre automatiquement, métaphysiquement. Il s'était aperçu qu'un acteur, il en faisait trop quand il ouvrait la porte, comme si c'était un symbole extrêmement... Donc il refaisait 7 fois, pour que l'acteur sorte de son côté acteur, devienne un individu, il ouvre la porte sans y penser. Donc c'est ça, et le cinéma direct, c'est ça. C'est la porte qu'on ouvre sans penser à quoi que ce soit.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous allez écouter le choix musical de l'éternel amoureux qui est Raymond Depardon, car dans la cabine technique, il y a Claudine Nougaret, et je pense que ce choix d'Alain Bachung est pour elle.
J'ai crevé l'oreille. J'ai dû rêver trop fort. Ça me prend les jours fériés quand Gisèle clappe dehors. J'aurais pas dû ouvrir à la Roquine Carmélite.
avait mis un kilt. Y a dû y avoir des fuites. Oh, oh, vertige de l'amour. Mes circuits sont niqués. Puis y a un truc qui fait masse. Courant peut plus passer. Non mais t'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Oh oh, vertige de l'amour. Tu chopes des filles à Saigon. Je m'écris des cartes postales du front. Si ça continue, je me découvre. T'as vu ce qui passe. Je veux le feuilleton à la place. Oh, vertige de l'amour. Mon légionnaire attend qu'on chante. Et la tranchée vient d'être peinte. Écoute, si ça continue, je me découvre.
Quelle différence faites-vous, Raymond Depardon, entre regarder et voir ?
Je pense que il y a quelque chose de... Par exemple, dans la Constitution américaine, l'article 2 veut que les institutions soient transparentes. Donc voilà, donc c'est voir. Il faut qu'on puisse voir. Ce qui se passe dans, en tous les cas, l'espace public et les services publics, enfin tout ce qui nous concerne de notre société. Donc regardez, bon, moi, je sais pas si je regarde bien, je sais pas parce que c'est regarder, j'ai un regard comme tout le monde, j'ai plutôt un regard un peu. Moi, j'appartiens à une agence Magnum. On voit que parce qu'on a analysé un peu, il y a des gens qui regardent plus loin que d'autres. Il y en a qui regardent plus près. Par exemple, il y a des photographes qui regardent très près. Il y a des photographes qui regardent loin. Donc, on a un regard qui se porte un peu comme ça, automatique, mécanique. Mais moi, je pense pas que j'ai. Je sais que je pourrais pas vivre si je ne faisais pas des images. C'est sûr que c'est mon existence. Il faut que
Vous n'êtes pas venu avec d'appareil photographique ni avec de caméra dans ce studio.
Non, c'est rare d'ailleurs. Oui, c'est bizarre. C'est bizarre. C'est la première fois, tiens. Mais d'ordinaire, j'ai un appareil comme ça pour quelquefois pour me donner une contenance aussi. Puis aussi, j'aime bien faire des photos. C'est vrai qu'aussi. Voilà, j'ai toujours prôné de faire des photos dans des temps faibles, des temps un peu comme ça, des photos à Paris, ou dans la vie quotidienne qu'on peut, dans les transports en public, parce que c'est vrai que c'est important. Moi, je sais que il n'y a pas que la grande actualité, il n'y a pas que les personnalités, que la guerre ou les événements. Il y a aussi de faire des photos tous les jours. Je pense que ça m'a sauvé un peu parce que on le voit bien d'ailleurs quand à 20 ans je faisais déjà des photos avec des temps faibles parce qu'il n'y avait pas grand chose à faire. Ces photos du service militaire que j'ai faites là, en fait j'ai fait j'ai fait un reportage sur le service militaire. En fait voilà, un an service militaire, tout le monde a fait, beaucoup de gens ont fait le service militaire. Maintenant il se fait plus, mais à l'époque il y en avait beaucoup. Et en fait on n'avait pas grand photo. photos. Et c'est vrai que là, je connaissais même plus ces photos, je les avais complètement oubliées. Et c'est vrai que je m'aperçois qu'il y avait quelquefois pas grand-chose à faire. Et, qu'on soit militariste ou anti-militariste, c'est pas la question. C'est que voilà, on attend, il y a des supérieurs, on joue à la guerre, il y a des porte-avions, il y a plein de choses. Mais c'était pas facile à faire, ces photos. Et j'ai été surpris de les retrouver. Aujourd'hui, ces photos que j'avais faites à 20 ans.
Alors, c'est cette exposition qui a lieu en ce moment à Toulon et puis qui va ensuite aller à Paris, au Val-de-Grâce, qui est accompagnée par un superbe livre. Et ces photographies ont été faites alors que vous étiez très jeune. L'armée vous demande de prendre des photographies sur le quotidien, ce que vous appelez les moments faibles, les moments discrets. Raymond Depardon, il y a des photographies champêtres, il y a des photographies drôles, il y a des photographies ironiques, mais tout de même, il y a votre manière de cadrer. Il y a une espèce de déséquilibre qui donne une grâce poétique à certaines de vos photographies. J'ai sous les yeux une photographie absolument incroyable. Alors, on est à la radio, mais comme vous êtes aussi un conteur et un écrivain, vous allez décrire cette photographie que vous avez prise en 1963. Elle revêt à mes yeux une très grande beauté, une très grande humanité et une très grande universalité. Pourquoi ?
Ben, c'est vrai que c'était des parachutistes, sans doute des légionnaires ou ce qu'on appellerait aujourd'hui des forces spéciales. C'était à Calvi. Donc, c'est là qu'il y avait le 13e ou le 11e régiment de choc, je ne sais pas quoi. Et bon, ils sautaient dans l'eau, souvent. Et moi, j'étais à la porte d'un avion, je ne sais pas si c'était un Transal, etc. Et moi, j'avais pas de brevet de parachutiste, quoi. La seule chose que je pouvais faire, c'était de me mettre à la porte. Et c'est vrai que comme je m'étais servi très jeune du Rolleiflex, j'avais une grande expérience du Rolleiflex. Et c'était un appareil assez curieux, parce qu'on voit l'envers, il inverse. Alors, très pratique, il a été d'ailleurs, c'est plutôt l'appareil photo, plutôt des chercheurs, hein. Par exemple Bourdieu, il y a un certain nombre de gens qui ont beaucoup, il y a beaucoup de chercheurs qui se sont servis du Rolleiflex, parce que c'est un format carré, il y a quelque chose d'assez particulier. Et bon, et surtout, bien sûr, on connaît les photos de Doisneau. Alors, Cartier-Bresson n'aimait pas d'ailleurs, parce qu'il trouvait qu'on faisait les photos avec le ventre, bien sûr. Mais c'est un avantage, parce que les gens vous voient. Moi, j'ai travaillé récemment sur Marseille, qui n'est pas une ville facile, et j'ai fait ces photos au Rolleiflex, et les gens étaient très gentils avec moi. Et d'ailleurs, ils me disaient, prenez bien soin de votre appareil, parce qu'effectivement, le Rolleiflex a disparu maintenant, et c'est un appareil qui est un petit peu, voilà, un peu daté maintenant, aujourd'hui. Alors, c'est vrai que j'avais l'habitude, alors c'est toutes les 12 vues, il faut changer de film, un film avec des papiers, comme ça. Donc j'avais l'habitude, j'ai l'habitude, et ce regard inversé, parce qu'on voit tout à l'envers, finalement, quiconque a fait un peu d'études d'art ou d'architecture, surtout, on vous apprend que pour regarder une photo ou un projet, il faut la regarder à l'envers. Ou en transparence. Donc, en fait, on voit assez bien à l'envers. Et à la chambre aussi, on voit à l'envers. Donc, il y a quelque chose...
Et donc,
chose...
vous n'avez pas dit que cette photographie de vous, Raymond Depardon, c'était un homme en déséquilibre, juste à la frontière entre l'air et l'avion, qui s'élance en hésitant un peu et qui a l'air d'une sorte de cosmonaute. Et c'est d'une beauté incroyable.
Oui, bien sûr, absolument. Mais j'aime pas trop parler de mes photos parce que... Je trouve que, alors c'est vrai qu'on est les photographes, on a toujours cette impression que une bonne photo, c'est une photo qui a du mérite, parce qu'on marche un peu au mérite les photos. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Quelquefois, on fait des photos dans la vie, ça arrive à faire des photos presque dans une position comme ça, automatique, ou même dans les films aussi, quand on fait une séquence. Et sur le moment, on voit pas l'intérêt que peut avoir. La force de cette séquence ou de cette photo. Parce que on a toujours l'impression qu'une photo qui est forte, c'est une photo qui est du mérite, comme une photo violente. Et c'est ça qu'il faut faire attention. Une photo violente n'est pas plus de mérite, n'est pas une meilleure photo qu'une photo calme. Bien au contraire, je crois que faire des photos dans des moments ou faire du cinéma direct dans des moments un petit peu difficiles. Alors on peut penser que effectivement je fais des films avec Claudine dans les hôpitaux psychiatriques, que c'est très très spectaculaire. Non, pas du tout. C'est des gens qui attendent, qui souffrent, et au fond finalement c'est toujours la même attitude de regarder. Et de voir, peut-être, ou de voir et de regarder les choses au bon moment et au bon endroit.
Vous n'aimez pas parler de vous, je le sais, Raymond Depardon. C'est aussi pour cette raison que nous avons demandé à l'historien Pascal Horry, qui préface magnifiquement ce nouvel ouvrage signé de vous, de parler de vous et de vous poser une question.
Quand on apprend que Raymond Depardon a fait son service militaire, que pendant un an, il a été au service en particulier d'un magazine militaire qui venait de se lancer, qui s'appelait TAM, Terre, Air, Marine, on peut se dire, oui, bon, il a dû passer un an à attendre que ça se passe. Et en fait, non, parce que d'abord, l'armée très conservatrice, archiviste en tous les cas, avait bien gardé ses fameux clichés et lui a proposé d'organiser une exposition et un catalogue que je trouve très beau là-dessus. Et du coup, on se rend compte que c'est un moment important dans sa vie, dans son œuvre. Il y a déjà dans ces clichés, qui sont souvent des clichés d'ambiance. Tout ça, ça discerne, à mon avis, déjà le fameux tropisme de Depardon. C'est un moment important dans sa vie. Une fois qu'on a dit tout ça, il y a une dimension à laquelle on ne peut être sensible qu'aujourd'hui, a posteriori, et qui tient à la légitimation progressive. Mais depuis ces années 60, à peine un peu plus tôt, de la photographie comme art, ce que les sociologues de la culture appellent, du mot un peu pompeux, d'artification. Évidemment, des gens comme Jacques Séguéla ou Philippe Labrault, qui ne sont pas encore connus, mais sont des journalistes et ont une sorte de supériorité qui est évidente à l'égard de la petite main qui fournit des photos, qui ne sont pas par ailleurs signées, évidemment, etc. Et ce n'est qu'ensuite qu'on se retourne sur cette période-là en disant « mais il y a déjà la touche de Depardon, il y a déjà une œuvre qui se constitue, et tout ça mérite le patrimoine. » Raymond Depardon, en vous retournant, presque sans l'avoir voulu, sur ce moment de votre vie et sur cette œuvre, ces centaines de clichés, est-ce que vous avez l'impression que le Depardon de 62-63 est déjà, quand même, en ce qui concerne le type de regard qu'il porte sur son environnement, je dirais même sur la lumière, est-ce qu'il est déjà, à vos yeux, le Depardon, même pas d'aujourd'hui, mais des années 70-80? Et au fond, est-ce que ces 12 mois vous ont profondément changé?
Alors, combien y a-t-il de Depardon, Raymond?
Non, il y en a un seul, je crois, je vois pas que ce soit... C'est vrai que je me disais quand même ces photos de paix, j'ai pas eu tellement, enfin, c'est très paradoxal, c'est que quand je m'en souviens, j'avais 14 ans, on commençait à beaucoup parler, on avait beaucoup parlé de la disparition, de la mort de Jean-Pierre Pedrazzini. C'était un des photographes de Paris Match qui était mort en Hongrie, en 56. On connaissait pas encore, je connaissais pas Capa, tout ça. Donc, je savais qu'en étant passionné de photos, j'allais me confronter à la guerre. Quelque part, je l'attendais un peu, cette guerre, la violence. Et en fait, j'ai toujours raté la guerre. Peut-être parce que aussi je l'ai pas non plus vraiment cherché, parce que je suis peut-être un peu trouillard. Quand je suis arrivé, donc, ces photos du service militaire en 62, là.
Après la fin de la guerre d'Algérie, il faut le préciser.
Parce que c'est une date qui n'est pas vraiment dans les livres d'histoire, mais en fait, c'est une date très importante, parce que c'est la première fois que la France est vraiment en paix. C'est-à-dire, il n'y a pas d'Indochine, il n'y a plus d'Algérie, il n'y a plus la guerre, il n'y a plus rien. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait? Alors, il faut quand même continuer à préparer la guerre. Mais il ne se passe plus de guerre. Donc, il n'y a plus de photos il y avait un côté comme ça quand j'étais jeune photographe, je me disais, bon, peut-être que, voilà, je vais mourir sur un champ d'honneur comme ça, comme Capa, comme ça, voilà. J'ai eu ma tante. Et en fait, donc j'arrive en 62, c'est déjà la paix. En plus, quand j'étais au Vietnam, j'y étais trop tôt, j'étais en 64, c'était pas encore la guerre des Américains, la grande guerre. Donc j'ai pas eu tellement l'occasion, je me suis jamais vraiment porté non plus candidat. Peut-être les seuls moments où j'ai tu étais, entre guillemets, un petit peu courageux et encore, et où là j'étais très à l'aise, en fait, c'est avec les guérillas. J'aimais beaucoup plus. J'ai jamais fait de front comme tous ces malheureux qui sont morts à la Verdun ou etc. Donc, le seul moment où on peut avoir peut-être à faire des photos de violentes, c'était avec les quand j'étais au Tibesti. Et là, j'étais avec un petit groupe. On se déplaçait vite. Il y avait des actions incroyables. Bon, mais au reste du temps, peut-être aujourd'hui encore, effectivement, on peut peut-être trouver un ou deux terrains de combat, mais en fait, voilà, aujourd'hui, un photographe n'est plus un photographe de guerre. Il doit photographier la paix. Mais il n'y a rien de plus difficile que de photographier la paix. Il n'y a rien de plus difficile que de photographier des manœuvres. Rien de plus difficile que de photographier des appelés qui attendent. Il y a des paysans qui vous donnent un petit verre d'eau. Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc c'est une question très difficile, mais au fond, c'est vrai que de faire ces photos pour ce journal, entouré de gens formidables, bien sûr, puisque ce journal était... En fait, au départ, c'est un commandant qui s'est dit « Je veux un Paris Match pour les appelés du contingent. Je veux qu'ils aient un bon magazine. » Parce qu'effectivement, il y avait énormément de gens qui étaient sous les drapeaux. C'était très difficile de pas y passer, puisque le service militaire était obligatoire. Donc, on était tous confortés. Même des archisurcitaires comme ces gars-là ou Labro étaient obligés de le faire. Alors, c'est vrai que ce commandant a eu l'idée de faire ce magazine. Et nous, on est tous partis faire des photos. Donc, moi, je me suis reparti. On m'a dit, on va faire la couverture, on va faire 4 pages. Mais je me trouvais, moi, à photographier des choses pas toujours passionnante à faire des photos. Il fallait que j'aie beaucoup d'imagination, il fallait que je me mette à une porte comme les parachutistes, quand on voit les gens qui partent dans l'air. Il fallait que je plein de photos comme ça, a priori, qui auraient pu être ennuyeuses et un peu posées. Et donc, c'est vrai que j'ai pas arrêté de ma vie de me retrouver partout, tout le temps comme ça, dans des endroits où les temps forts étaient finalement assez difficiles à photographier.
Aujourd'hui, nous sommes le 4 juin 2019. Il y a exactement 30 ans, il y avait le massacre des étudiants à Tiananmen, à Pékin. La presse a fait des pages magnifiques pour essayer de restituer la mémoire de ces personnes qui ont tragiquement disparu. Les mères courage de Pékin essayent de savoir ce que sont devenus leurs enfants. Il y a une femme qui a aujourd'hui 82 ans, qui a perdu son fils, qui a été tué d'une balle en pleine tête lors du massacre dans la nuit du 3 à 4 juin 1989. Son fils est parti avec un appareil photographique autour du cou pour documenter la révolte des étudiants. Il n'est jamais revenu. Raymond Depardon, j'ai quand même l'impression qu'encore aujourd'hui, quand on ne veut pas savoir les tragédies de l'histoire, les États autoritaires interdisent les photographies.
Oui, bien sûr, on voit avec le Soudan, le Khartoum, il y a eu encore hier beaucoup de morts. Et ben oui, c'est terrible. Alors il y a quelques photos, il faut espérer que ces photos vont pas disparaître, parce que vous savez que c'est des Chinois qui ont acheté Corbis et qu'il y avait beaucoup de photographes qui ont, à l'époque de Sigma, qui ont des photos. Donc on se demande si ces photos vont pas disparaître. Donc il faut vraiment être vigilant. Effectivement, tous les pouvoirs veulent faire disparaître. Alors, paradoxalement, il y a aussi quelquefois des choses assez contradictoires, notamment, par exemple, à la fois, la guerre a fait avancer l'image, notamment pendant la guerre avec les nazis. Et c'est eux qui ont inventé cette caméra incroyable. Et ils ont filmé. Alors, bien sûr, on n'a pas filmé le ghetto, mais on a filmé autour du ghetto. Alors, les Américains aussi ont filmé, par exemple, la guerre du Vietnam. Donc, c'est vrai que c'est toujours... on interdit parce que pas de photos. Et c'est pour ça que quand les gens se rendent pas compte, quand ils disent pas de photos, je pense qu'ils se rendent pas compte que la photo n'est pas un ennemi, personne. Il faut assumer cette position de... Voilà, il y a pas de... C'est pas... Ça mord pas, la photo.
Merci infiniment, Raymond Depardon. Donc, double actualité, une exposition en ce moment même à Toulon, un livre qui s'intitule « Photographe militaire Depardon » et cette exposition sera à Paris à partir de début octobre. Vous aimez Bertrand Belin ?
c'est une clope. Je te dis un point qui danse dans ces collines. On se balade ici, ma main au feu. Un ours qui fume, je n'en crois rien. Il faut que cela soit quelqu'un ou bien quelqu'un qui suit un sentier, quelqu'un de transi, quelqu'un qui fuit, qui cherche un pays pour vivre, vivant.
D'esprit, c'est le dernier album de Bertrand Belin que nous écoutons en ce moment même. Merci à Juliette Delperroux qui était à la technique ce soir.